Boulevard 102, sur les plaines, au centre Vidéotron ou dans votre char. Boulevard 102. Quand ça se passe à Québec, ça se passe à Boulevard 102.
Boulevard
102. Votre partner de show. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Hey, salut, bon lundi! Hey, c'est toujours chaud, fait beau, la lumière est là, c'est le fun, profitons-en parce que l'été tire à sa fin. 23 degrés sur Québec, c'est ce qu'on a actuellement. Des petits nuages qu'on aura pour ce soir, mais pas de probabilité d'averse, c'est la bonne nouvelle. Minimum de 13, donc ça va bien dormir. Pour ce qui est de demain mardi, une alternance de soleil-nuage, 40% de probabilité d'averse, mais ça, ce serait en après-midi. Maximum de 24 degrés. Ce qu'il faudra surveiller demain, c'est le facteur humidex. On parle d'une température ressentie de 30. Il y en a qui vont dire, c'est pas si pire, on a déjà connu pire. Mais quand même, ça peut être chaud, 30 avec le facteur humidex. Pour ce qui est de mercredi, ce sera de la pluie maximum de 19. Jeudi, 31 août, ce sera ensoleillé avec un maximum de 20. Vendredi, 1er septembre, ensoleillé avec un maximum de 25. Puis pour ce qui est du week-end jusqu'à maintenant, fait beau samedi, fait beau dimanche. Donc voilà, profitons-en. Profitons-en pour faire de la moto. Je salue tout le monde que j'ai croisé en fin de semaine à qui... parce que pour ceux qui ne savent pas, ceux qui font de la moto, ça envoie toujours des babayes comme les propriétaires de Mustang. Ben oui, on est comme ça. On a des petits côtés bizarres, mais bref, il nous reste quelques semaines à profiter de ce merveilleux loisir, puis qu'on le fasse en toute sécurité pour avoir d'autres belles saisons de moto comme on a connu cette année. J'ai eu quand même de bons épisodes là, où j'ai pu faire de la moto pendant quelques jours en ligne. Fait que, bref, somme toute, un bel automne qui se dresse devant nous. Maître Marc Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. Maître Bellemare, bonsoir.
Bonsoir, ça va bien?
Ben oui, un avocat, ça travaille fort, ça, toujours fort. Merci d'être là, faut vous le dire. C'est un privilège de faire de la radio avec vous chaque lundi à Québec sur les ondes de Boulevard 102.
C'est un plaisir. On a toujours des choses à dire. Je regarde l'actualité judiciaire, puis même en été, il se passe des choses. Il y a toujours des petites surprises. On se demande toujours comment ça se fait que ça a été dans tel ou dans tel sens. Mais on est là pour donner des conseils aux auditeurs et des explications sur notre système judiciaire, notre système politique. C'est toujours un plaisir pour moi de donner ma petite opinion.
C'est bien ça. Sûr. Vous leur donnez des conseils, moi, je vais faire rire. Hein? Chacun son métier.
Oui, c'est ça. Bien que des fois, on se force un peu pour les faire rire aussi.
Ouais,
mais ça dépend. T'sais, l'humour, c'est très subjectif. Hein? Ça dépend de chaque personne qui reçoit la blague.
Exact. Après quelques années, j'ai décidé de retourner à Expo Québec. Expo Québec qui s'est transformé avec le temps. Là, c'est maintenant rendu un genre de beauce carnaval. C'est à peu près à la même place où c'était là, par les années passées. C'est carrément juste à côté du centre Vidéotron. Puis c'est vraiment des manèges qu'on a mis là. Le site est accessible à tout le monde. Si vous vouliez faire des attractions, bon là, fallait s'acheter quelques tickets. Puis ben mes gars ont découvert Expo Québec. C'est pas le même qu'on a connu, vous et moi, dans le temps, là, mais au moins, ils ont eu bien du plaisir ce week-end. Puis j'ai eu un petit stress. Je sais pas si vous aviez ça là, quand vous aviez de jeunes enfants, mais quand j'ai envoyé mes gars dans la balançoire qui lève à, je pense, 75 pieds dans les airs, à un moment donné, je me suis dit, hé, tabarouette, s'il se passe quelque chose, je pourrais vraiment pas les aider.
Ben, as-tu fait quelques manèges ou si t'es rendu trop vieux, les problèmes nauséeux apparaissent à ton âge peut-être?
Non, j'ai pas fait de manège. Ma blonde a fait un manège. Elle a fait la grande roue avec une de ses amies. Là. Mais moi, je faisais la file avec mes gars parce que les manèges qu'on faisait, c'était des manèges qui étaient très, très, très achalandés. Puis je voulais pas les laisser seuls dans cette file-là. Puis souvent, c'est par groupe de deux. Hein, fait que trois, c'était trop. Fait que le père est resté là pour surveiller la sortie pour qu'il arrive à rien à ses gars.
Mais la grande roue, c'est pas trop dangereux. Ça bouge pas tellement. Ce qui bouge, c'est ce qu'il y a des qui donne des secousses, là, des gauche-droite violents, là, c'est
Ouais.
ça. J'aimerais ça aller voir un petit peu comment tu te comportes quand tu sors de là, si tu changes de couleur ou pas.
Ouais. Dans le temps, je faisais le zipper. J'avais fait le zipper. Hey, ça vire
Ah
d'un
oui,
bord et
OK,
de l'autre.
ouais, c'est bon.
Il semblait en avoir un, là. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'apparentait au zipper. J'aurais pu l'essayer, mais j'ai laissé ça au plus jeune, Maître Bellemare.
Mais moi, ce qui m'a toujours un petit peu dérangé, moi, je suis originaire de Saint-Hyacinthe, et à Saint-Hyacinthe, quand j'étais petit gars, puis c'est encore le cas aujourd'hui, on avait ce qu'on appelait l'exposition agricole, où il y avait des bêtes, des vaches,
Ouais.
des chevaux, toutes sortes de bêtes supposément d'exception. Puis il y avait des manèges, mais c'est toujours une petite crainte, parce que c'est des expositions ambulantes, hein? C'est des manèges ambulants, puis ils défont ça à Québec, ils remontent ça dans le Vermont, ils défoncent ça dans le New Hampshire, ils remontent ça à Montréal. Je me dis, bon, j'espère qu'ils n'ont pas oublié une vis, là,
Ben, c'est
parce
ça,
que, tu sais, je sais pas.
tu sais jamais si on festoyait la veille avant de monter ça, ou ben, mais malgré tout, ça semble être extrêmement sécuritaire. C'est rare qu'on entend parler qu'il y a des manèges de Beauce Carnaval qui ont pas bien fonctionné, là, puis, mais bref, c'est super bien organisé, puis ça coûtait quand même un bon prix. Je pense que pour le bracelet, c'était 28$ par enfant, mais je m'en ai bien sorti, Maître Bellemare, là,
Oui, bon, c'est un
ouais.
bon investissement. Ils sont contents quand ils sortent de là,
Ben oui, mais ils
absolument.
vont faire la vaisselle toute la semaine.
Là, ils sont contents, ils s'en vont à l'école, ils vont étudier, là. Vont se
Ouais.
concentrer sur les livres, pas de cellulaire, et que ça va être beau.
Exact. Dans les gros dossiers, on ne peut pas faire abstraction, Maître Bellemare, de ce qui s'est passé ce week-end, plus précisément samedi, où il y a eu un double meurtre à Notre-Dame-des-Prairies. Ça fait mal au cœur de l'appeler père de famille, mais mettons un père biologique qui a malheureusement tué ses deux bambins de 3 ans, donc deux petits jumeaux. Il y avait une histoire de séparation dans ça. Il y avait une histoire aussi où l'homme s'était fait prendre à espionner son ancienne conjointe. On aurait retrouvé chez elle des micros. On aurait retrouvé chez elle aussi, ben, plus précisément dans sa voiture, un genre de GPS là, pour suivre ses allées et venues. Les policiers sont venus procéder à l'arrestation de l'homme devant ses deux enfants. Ça semble l'avoir perturbé. Quand on enquête un peu sur cet homme-là, on s'aperçoit que c'est un homme qui avait une entreprise qui était liée à la cyber. À l'informatique, là, il y avait des contrats avec le gouvernement. Donc, vous comprenez que quand vous avez un certain niveau de sécurité là, comme entreprise, bien, pour faire affaire avec le gouvernement, on vous surveille. Et si vous avez un dossier criminel, bien, ça se peut que vous ayez plus de contrat du gouvernement. Et on ne sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme-là, mais il a décidé, lui, que c'était terminé, qu'il se donnait la mort en plus de donner la mort à ses deux enfants. Quelle histoire atroce, mais Bellement.
Bien, moi, je pense que, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté au fil des années, parce que j'ai représenté devant un tribunal quantité de mères de famille, et des pères de famille aussi, dont la conjointe avait tué les enfants. Et c'est à peu près unanime dans les jugements de cour, quand ces situations se présentent, c'est considéré comme étant des crimes pour faire mal à l'autre. Tu sais, c'est souvent ces parents-là sont des parents bien intentionnés, dont on n'a pas de raison de douter de la qualité de la relation avec l'enfant. On peut douter de la qualité de la relation avec la conjointe ou le conjoint avec lesquels ils sont en brouille ou en séparation. Mais la plupart du temps, les relations sont bonnes avec les enfants, et c'est ça qui est un peu trompeur, c'est que on se dit, bon, si éventuellement le père s'attaque à quelqu'un, ça va être à qui? Mais souvent, on pense pas aux enfants. C'est ce qui s'est produit à Wendake il y a quelques années. C'est ce qui s'est produit avec la jeune Daphné Boudreau à Saint-Hilaire il y a quelques années aussi. Patrick Desautels, qui est devenu très connu parce que sa femme, son ex-conjointe, avait tué et noyé ses trois enfants en décembre 2012. Toutes ces situations-là sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire que on s'attaque à l'autre conjoint et pour faire mal à l'autre conjoint, ben on extermine les enfants, puis après ça, on se tire. Alors, c'est un pattern qui revient souvent. Mais comment prévenir ce genre de situation-là? Parce que je suis convaincu qu'au moment où on se parle, Yann, là, au Québec, il y a quelques dizaines de cas semblables. Je suis convaincu, moi, que dans la tête des policiers, dans les oreilles des policiers qui nous écoutent en ce moment, ils pensent à trois, quatre cas qu'ils ont vus récemment, où ils sont intervenus dans des maisons. Mais tu sais, tu peux pas mettre tout le monde en prison non plus. Puis comment anticiper ce type de situation-là. Il y en a plusieurs qui font des menaces puis qui ne passent pas à l'acte. Et souvent, on s'aperçoit que ceux qui sont les plus dangereux, c'est ceux, justement, qui réussissent à cacher leur plan, qui ne sont pas trop agressifs verbalement, qui ne sont pas trop explicites. Puis c'est eux, souvent, qui vont nous surprendre par ce genre de situation-là. Mais je pense que, en tout cas, la presse rapportait aujourd'hui que je pense qu'il y avait eu des arrestations. Il avait été arrêté, mais il n'avait pas été emprisonné. Et ces arrestations-là n'étaient pas nécessairement connues de tout le monde au moment où le drame s'est produit. Alors là, il y a peut-être un problème aussi de connexion, de transfert d'informations, DPJ, dossier de divorce, dossier de séparation, arrestation. Peut-être que tout ce monde-là ne se parle pas nécessairement non plus, puis à un moment donné, ben, c'est quand le drame survient que le coroner nous apprend tout ça, hein?
Ouais. Puis ce qui est particulier, c'est que cette fin de semaine-ci, c'était pas la fin de semaine de garde de cet homme-là. Il en aurait fait la demande à son ex-conjointe. Elle aurait effectivement accepté de confier ses enfants au gars. Donc, elle, de son côté, elle devait pas se douter, mais pas une seconde, qu'il pourrait s'en prendre aux enfants. Puis cela dit, je suis rempli d'empathie envers les gens qui sont corrects puis qui ont des épisodes avec la santé mentale. C'est complexe quand t'es malade. Regarde, t'es malade, puis après ça, tu peux guérir. Mais je me dis, quand il y a des épisodes où les gens ont des problèmes de santé mentale, on ne pourrait pas mettre un système de sécurité qui veillerait peut-être à régulièrement qu'on entre en contact avec ces gens-là pour essayer de connaître leur état d'esprit ou encore donner des visites supervisées. Ce n'était pas un beau moment, là. Lui, il surveillait son ex, donc visiblement, ça n'allait pas bien. Il se fait arrêter, continue d'avoir accès aux enfants sans visite supervisée. Je trouve ça, on dirait que c'est le système qui a failli, mais en même temps, il va falloir. Tu sais, ils sont pas, on n'est peut-être pas encore rendu là.
Ah ben des fois, on sait qu'il y a des problèmes de santé mentale. Dans ce cas-là, je sais pas si les reportages qu'on a vus nous ont montré qu'il y avait effectivement eu des thérapies ou qu'il y avait effectivement consulté. Des fois, c'est pas le cas. Des fois, il n'y a pas d'antécédent comme tel.
Dans son
Il n'y a
cas à
pas
lui,
eu d'hospitalisation.
on parlait de dépression dans son cas à lui.
Oui, c'est ça. Encore là, tu sais, est-ce qu'il y a un dossier clinique? Est-ce qu'il y a déjà consulté? Moi, je vais te dire, là, comme avocat, là, représentant des victimes, là, je reçois tous les jours des appels de clients ou d'inconnus. Ils m'appellent et disent, Monsieur Bellemare, connaissez-vous un psychologue que je pourrais consulter? Puis, des fois, ils sont indemnisés, des fois, ils ne sont pas. Et ben, je leur dis, écoutez, moi, je suis pas là pour gérer les agendas des psychologues, mais je peux vous donner quelques noms. Alors là, moi, j'ai une liste au bureau de gens qui sont déjà venus me voir, puis qui m'ont dit, mais c'est tel psychologue, il est correct, il est empathique, je suis très content d'avoir ce psychologue-là. Je prends en note le nom et le téléphone, puis je le donne à d'autres qui pourraient de temps en temps avoir accès à un psychologue qui est disponible. Mais souvent, ils me rappellent, puis ils me disent, écoutez, M. Bellemare, les 4-5 noms que vous m'avez donnés ne sont pas disponibles. Ben, je dis, continuez, je cherchais sur Google, parlez à votre médecin. Les médecins souvent connaissent des psychologues, ils sont en lien avec ces gens-là. Mais depuis la COVID, il y a vraiment une pénurie. Il y a beaucoup de psychologues qui avaient beaucoup de volume qui prennent leur retraite aussi en même temps. Les plus jeunes ne prennent pas nécessairement le même volume. Ils ne sont pas nécessairement aussi occupés, si tu veux, ou l'agenda, ils accepteront pas de travailler 12 heures par jour ou de faire 45 heures de thérapie par semaine comme les psychologues le faisaient il y a quelques années. Aujourd'hui, les agendas des psychologues sont un peu moins garnis. Ils prennent pas autant de volume. Ils travaillent pas aussi fort que les plus vieux. Alors, question de choix de vie aussi. Alors, ça fait en sorte qu'il y a une pénurie, effectivement. Puis c'est bien beau de dire oui, mais on peut avoir recours à des psys, on peut les ressources en santé mentale, mais encore faut-il qu'il y ait une disponibilité. Encore faut-il que la personne accepte de consulter. Autrement, mais c'est la police qui va l'amener de force, puis on sait qu'est-ce que ça va donner, ce qu'on appelle un P38, là, qui est la loi qui permet d'obtenir un examen forcé. Mais encore là, ça prend des signes très, très clairs. Tu te souviens du dossier de Lac-Saint-Charles? Le petit Lebel, là, qui a finalement été reconnu non criminellement responsable. Il y a quand même deux policiers qui se sont présentés le lundi. Puis le mercredi, les parents vont chercher un jugement. La police arrive 4 heures trop tard. Puis finalement, l'irréparable est commis, même si on avait d'excellentes raisons de penser que cet homme-là était malade. Alors, c'est entre la théorie et la pratique, à cause de la difficulté de trouver des ressources, à cause des problèmes de collaboration souvent des principaux intéressés, ceux qui se présentent des signes de maladie, on se retrouve avec des situations déplorables où il y a des assassinats, où il y a de la violence ou des victimes additionnelles qui vont être notées.
Ouais. Puis il faudrait arrêter là, du côté des médias, de un, d'appeler ça des drames familiaux. Il n'y a rien qui expliquera ce genre de situation-là où un père s'en prend à ses propres enfants. Là. Rien, rien, rien. Puis quand on dit drames familiaux, c'est comme si en raison des problèmes de la famille, on avait décidé d'exécuter les enfants. Je trouve que ça enlève un peu au crime qui a été commis, un crime extrêmement lâche. Puis on pourrait-tu aussi, en tant que média, mettre Bellemare, juste à arrêter de mettre des photos des trois ensemble, tout sourire. Moi, ça m'arrache le cœur de voir ces deux enfants-là sourire avec leur père qui est en arrière, qui est super heureux aussi. Ça, on devrait juste séparer. On devrait enlever le... On devrait dépaternaliser ces gens-là, tout simplement. Des mettre à part avec leur sourire, c'est bien correct, mais pas des mettre les trois ensemble. Je trouve ça atroce. Puis les membres de leur famille vont voir toute leur vie ces photos-là, hein, des deux bambins avec leur père.
Pas nécessairement les enterrer ensemble aussi... Tu sais qu'il y a eu, il y a à peu près une dizaine d'années, un groupe de femmes, justement, qui ont été victimes de maris comme ça, qui ont tué les enfants, qui se sont suicidés. Ça s'appelait Les Survivantes. C'est sur Google, très certainement aujourd'hui. Et Les Survivantes ont diffusé un manifeste. Il y avait 6 femmes et ils ont produit un manifeste dans lequel ils recommandent un certain nombre de choses au gouvernement. Puis comme tu dois bien t'en douter, le gouvernement n'a rien fait. Mais une des recommandations s'adressait aux médias et disait... Est-ce qu'on peut, une fois qu'on a un assassinat, une fois qu'on a des victimes, des enfants qui ont été tués par le père, parce que c'est souvent le père, très rare que c'est la mère, mais ça arrive, mais c'est très rare que c'est la mère, est-ce qu'on peut arrêter de dire que c'est un bon gars? Parce que souvent, la médiatisation de l'événement, on va voir le voisin qui nous dit « Ah, c'est le meilleur gars du monde, j'aurais jamais pensé qu'il aurait fait ça. » On continue... de faire planer l'image du bon gars, du gars gentil. Au travers, on n'a pas vu de signe. Il était fin, il amenait du chocolat, il amenait du café. C'était le meilleur gars du monde, puis c'est ci, puis c'est ça. Puis on continue d'alimenter le mythe du gars parfait, or qui a tué ses enfants. Alors, au moment où le reportage est fait, là, c'est plus le bon gars qu'on a à l'écran, c'est un assassin. Il a tué ses enfants. Ouais. Puis normalement, il devrait aller 25 ans en prison, mais il le fera pas, il va aller aussi à la place, il s'est suicidé. Alors, tu sais, ce côté bon gars qui est un peu tannant, et les femmes, les 6 femmes avaient signé ça en disant « Arrêtez les médias de nous donner l'image du bon père de famille. Un bon père de famille, ça ne tue pas ses enfants. » Ça n'a jamais été fait. Puis même, on a continué hier dans le drame de la Naudière de nous présenter, comme tu dis, la photo, le bon gars, le ci, le ça. Alors, ça donne quoi de faire ça quand finalement on a un assassin sur les bras, un assassin qui sera bien sûr jamais jugé?
Maître Bellemare, autre dossier, puis je vais faire mon mea culpa. Je me souvenais plus de ça. Vous me l'aviez déjà expliqué lors de nos premières émissions, que si on était avec notre 4 roues puis qu'on se promenait dans des sentiers puis il nous arrivait une bad luck, que la sac ne nous dédommageait pas. Vous me l'aviez dit. Puis je l'avais oublié, puis j'ai vu une histoire passer dans l'actualité où il y a un père de famille tétraplégique qui peut même pas retourner chez eux parce que son logement où il habite avec sa fille puis les 2 enfants de sa conjointe est pas adapté à ses propres besoins. Puis c'est ça, c'est un jeune de 34 ans, donc encore très très jeune, quadraplégique, accident de VTT. Puis, il n'a droit à aucune indemnisation de la Société de l'assurance automobile du Québec. Car l'immatriculation d'un VTT n'inclut pas d'assurance comme pour un véhicule de promenade. Mais de Bellemare, il va falloir commencer à y penser parce que moi, si j'ai un VTT, on me demande, je dois absolument me plaquer.
Oui, mais c'est le gouvernement qui est malhonnête là-dedans. Et c'est une des grandes aberrations, je trouve, parce que le régime d'assurance automobile est en vigueur depuis 1978 au Québec. Ça fait 45 ans cette année. Et ça fait 45 ans que le gouvernement, dans sa publicité, nous dit « c'est un bon régime, on s'occupe des victimes, tu te souviendras ». Ben, peut-être que tu es trop jeune, là, mais à l'époque, Mme Payette, le slogan, c'était « la victime, la personne avant toute chose ». On a toujours eu des slogans très, très flatteurs au niveau de la SAAC.
Ouais.
Et les gens qui payent des cotisations ou qui payent des immatriculations se croient protégés. Et là-dedans, il y a bien sûr les VTT, 3 roues, 4 roues, les motocross, les skidoo, qui sont tous plaqués. Alors, les gens sont pas fous, ils se disent, si je plaque même, ça me coûte pas cher, mais je suis chanceux, parce que si je paye une cotisation, je paye 500, 300, 200 piastres, je paye pour mon 4 roues, je paye pour ma moto, je paye pour mon skidoo. Comment faire la différence et qui sait que la moto est protégée par la loi parce que c'est un véhicule standard, plus traditionnel, plus régulier, mais le 4 roues, lui, il ne l'est pas, puis la motoneige ne l'est pas. À moins qu'il y ait un véhicule qui te rentre dedans comme motoneige, mais si c'est un accident, je ne sais pas, moi-même, tu traverses la rue avec ta motoneige, il n'y a pas de véhicule d'impliqué, tu fais un embardé, tu n'es pas protégé.
Okay. Deux motoneiges,
tu fais du 4 roues.
Deux motoneiges face à face sur la route, exemple.
Ouais.
C'est un exemple
ouais.
qu'on donne. Ben, il n'y a aucune indemnité qui est donnée.
Oh, la SAC n'est pas responsable des dommages et ne paiera pas les victimes. Et il est même arrivé, il y a une quinzaine d'années, dans la région de Trois-Rivières, deux 4 roues qui se sont frappées sur l'autoroute 40. Ils se sont frappés. Il y a eu des victimes graves, des paraplégiques, des tétraplégiques, des dommages importants parce que ces véhicules-là causent des dommages importants. C'est rare que tu vas avoir un accident de VTT qui va te causer une petite cicatrice sur le petit doigt, tu sais. La plupart du temps, c'est des éjections. Ils sont propulsés. Ils frappent des arbres, ils frappent des roches. Il y a des multiples fractures. Des fois, il y a des décès. Alors, la SAC ne couvre pas ces accidents-là, à moins que le 4 roues soit entré en contact une collision ou que soit entré d'une quelconque façon en contact, que le dommage soit causé par un véhicule automobile. Une moto qui frappe un 4 roues, ça va sur le chemin public. Une auto qui frappe un skidoo, ça va, tu vas être indemnisé. Mais c'est à cause qu'il y a un véhicule d'impliqué, parce que s'il n'y a pas de véhicule d'impliqué, tu n'es pas indemnisé. Alors les gens sont tout mêlés et le drame là-dedans, c'est que c'est après que l'accident soit survenu qu'on sait la vérité. Quand le gars de la SAC dit « ben non, on ne couvre pas ça », ben là, on l'apprend là. Ben là, le dommage est causé parce que le gars est mort ou la fille est à l'hôpital en paraplégique. Elle ne retravaillera plus jamais. C'est des dommages immenses. Et compte tenu que la SAC prend le chèque d'un bord puis ne donne aucune indemnité de l'autre, moi j'appelle ça du vol, c'est pas compliqué, là. On ment aux gens, on les immatricule, on exige d'eux une contribution à la SAC. Dans la tête des gens, la SAC s'est faite pour indemniser les victimes. Et il n'y a pas d'indemnité, mais on l'apprend sur le tard au moment où le dommage est causé, puis ça fait des absences d'indemnité importantes et des dommages importants pour les gens, des pertes financières, évidemment, t'as pas à calculer bien longtemps pour savoir que c'est des millions qui sont sauvés par la SAC.
Non, c'est ça.
Puis à côté de ça, il empoche les sommes, puis il n'y a comme pas de contrepartie. Mais... Alors, j'appelle ça, moi, du mentir aux gens. Le gouvernement le fait parce qu'il veut garder l'image d'un régime qui est parfait, plutôt que de dire aux gens honnêtement, ben assurez-vous ailleurs si vous avez un 4 roues, un skidoo, parce que si vous vous blessez, vous ne serez pas indemnisé. On ne le dit pas, on laisse croire que le régime s'applique alors qu'il s'applique.
Donc, le quadriplégique est condamné à l'aide sociale jusqu'à la fin de ses jours.
C'est l'aide sociale, à moins qu'il y ait une assurance privée. Et il y a beaucoup de gens qui ne prendront pas d'assurance privée par choix, en prenant pour acquis qu'ils sont plaqués, donc la SAC va les indemniser en cas d'accident. S'ils savaient, bien, ils s'assureraient ailleurs, mais qui sait ça? Personne. Moi, je le sais parce que je suis un spécialiste là-dedans, mais c'est une situation qui est parfaitement méconnue du grand public. Et il y a des enfants là-dedans qui sont blessés. Moi, j'ai eu des cas, des gens qui ont été blessés en 4 roues, des enfants mineurs qui vont être handicapés pour le reste de leur vie puis qui n'auront jamais d'indemnité, simplement, même si l'accident est arrivé sur la voie publique, ils longeaient le chemin, ils longeaient l'autoroute, et dans certains endroits, on peut traverser la voie publique, même en motoneige. C'est permis, mais même si tu te blesses, tu fais un embardé sur l'autoroute en motoneige, un accident banal, tu ne seras pas indemnisé pour les conséquences.
Non, puis on ne pense jamais au pire. Il y en a qui pensent toujours comme ça, ils pensent toujours au pire, mais moi, je pense jamais au pire. Puis, tu sais, très honnêtement, quand je faisais du 4 roues, je pensais, je ne me posais pas la question si j'étais assuré ou non. Tu sais, je suis assuré pour le 4 roues, mais pour moi, je me disais, si je me plante, ce sera quelque chose de cassé. Mais là, lui, quadriplégique jusqu'à la fin de ses jours, probablement. Puis, condamné à être soit sur l'aide sociale ou soit sur les assurances. Là. Mais bref, on va souhaiter que la situation s'améliore pour lui parce que semblerait qu'à certains moments, il y a des petits spasmes, là, ce qui fait en sorte que l'électricité semble passer à certains endroits dans ses membres. Donc, les médecins disent peut-être qu'un jour, il réussira à remarcher. Mais là, on est rendu... Ouais. Dans quelques années. Un autre...
Il faudrait que la SAC, tu sais, il y a de la paperasse qui est échangée avec les motocyclistes,
ouais.
avec les propriétaires de 4 roues. Quand tu payes ton immatriculation, il faudrait qu'il y ait un papier qui soit très explicite, en grosses lettres, puis qui dise « Vous ne recevrez pas d'indemnité de la SAC en cas d'accident. parce que votre véhicule ne constitue pas un véhicule au sens de la loi sur l'assurance automobile, ou la SAC ne vous protégera pas en cas d'accident à moins qu'un véhicule soit impliqué, qu'ils le disent clairement, haut et fort, qu'ils fassent de la publicité là-dessus, parce que, comme je te dis, là, les gens qui sont pénalisés par ça là, sont des gens qui sont blessés gravement. La plupart du temps, puis c'est pas les derniers qu'on va avoir. À tous les hivers, moi, j'ai des appels de gens qui sont blessés en motoneige. Tous les étés, c'est des quatre roues, des trois roues et des motocross qui sont pas couverts par la loi.
Un autre champion, Maître Bellemare, on parle d'un homme de 56 ans qui vient de se voir puni devant la justice parce qu'il épiait sa belle-fille, donc ce n'était pas sa fille à lui, il épiait sa belle-fille depuis plus de 2 ans. Sa belle-fille avait 16 ans au moment où il s'est fait prendre. Le gars va devoir passer une année en prison et en plus de ça, il va devoir respecter une probation de 2 ans pendant laquelle il ne pourra pas s'approcher de sa victime, bien entendu. La conjointe de cet homme-là, qui est la mère de la jeune victime de 16 ans, avait déjà pogné le vieux cochon avec des photos de sa fille dans son cellulaire. Puis à ce moment-là, il disait que, bon, il savait pas d'où est-ce que ça venait, c'était pas de sa faute. Puis finalement, ben, elle lui avait pardonné cette première fois-là où elle avait vu, de ses yeux vus, les photos de sa fille nue dans le cellulaire de son conjoint. Et arrivé une deuxième fois où là, ils ont comme revérifié un peu plus tard à savoir s'il y avait encore des photos de sa belle-fille dans son cellulaire, ils ont réussi à voir des photos et des vidéos de sa belle-fille qui se regardait dans le miroir dénudée. Et lui, de son côté, dit « Ben, c'était une arnaque qu'ils m'ont faite, c'est un piège qu'ils m'ont tendu. » N'a jamais véritablement dit qu'il avait pour but d'épier cette jeune fille-là. Il mentionnait même que c'était probablement un coup monté entre sa conjointe et sa belle-fille pour le faire arrêter. Un gars qui comprendra pas, là, mais en même temps, je veux dire, 1 an de prison pour épier sa belle-fille, c'est-tu assez, selon vous, Maître Bellemare, pour donner, donner une idée aux autres cochons là, que ça se fait pas aujourd'hui, on défend nos enfants?
Moi, je pense qu'il est bien chanceux d'avoir pogné juste 1 an.
Ouais.
Mais sans dessein, il pensait s'en tirer sans condamnation. Il pensait rentrer chez eux le soir. Il s'est fait passer les menottes à la place. Écoute, c'est tellement ridicule. C'est tellement terrible.
Mais surtout, mais
si je pouvais parler à la mère entre quatre yeux et dire qu'elle aussi n'est pas brillante, là, comment tu peux permettre que ce gars-là, qui n'est pas le père de la fille, qui arrive dans ta vie, ait dans son cellulaire des photos de ta fille tout nue, tu sais, ta fille de 16 ans, je pense.
Ouais.
Comment tu peux accepter ça? Tu sais, les femmes, là, come on, là, des situations comme ça, c'est inacceptable. Il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de deuxième chance. C'est dehors, tes valises, puis sors d'ici.
Ah non.
Ce gars-là travaille dans un bureau d'avocat, je pense, si je me suis sur le
on sait
que
pas
j'ai lu aujourd'hui.
On peut pas savoir, on peut pas trop donner de détails, mais c'était peut-être même un avocat. La raison pour laquelle on peut pas donner de détails, c'est que si on donne des détails, on va être capable d'identifier la jeune victime. Mais même après avoir obtenu être dans le processus judiciaire, là, il disait que il blâmait la victime en affirmant que c'était elle qui adoptait une conduite provocante par son manque de pudeur en négligeant de fermer les rideaux de la salle de bain. Fait que lui, il allait dehors, prenait son cellulaire, puis il regardait sa belle-fille au travers de la fenêtre pendant qu'elle est en train de se regarder dans le miroir, mais il disait que c'était de sa faute à elle. Et plus tard, il a précisé qu'il pardonnait à la victime et à la mère à qui il reprochait d'avoir fouillé dans son cellulaire.
C'est incroyable, mais tu sais, on va pousser l'absurde là, au maximum, là, Yann. Là. Admettons que la petite fille elle s'amuse avec ça. Admettons que c'est vrai qu'elle provoque. Le bonhomme, là, il n'a pas le droit de faire ça.
Ben non.
Même si, il n'a pas le droit de faire ça. Lui, là, il a quoi, 35, 40, 50 ans, là. Tu sais, c'est un homme mûr, mature. Il est censé avoir des moyens de contrôle. Il est censé être capable de se diriger dans la vie. Il a une job. Il est sur le marché du travail. Il a pleine maturité. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu sais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des fois des situations où il peut y avoir, tu sais, je sais pas, la fille, elle peut peut-être même provoquer à la limite juste pour le mettre dans le trouble. Je ne sais pas. Je m'en fous. C'est pas ça la question. La question, c'est que c'est une jeune fille. Tu n'as pas le droit de prendre des images sans son consentement. Et même si tu as un consentement, compte tenu qu'elle est mineure, tu n'as pas le droit de prendre des images. Ça, puis même, ces images-là peuvent devenir de la prostitution juvénile. Alors, pas de la prostitution juvénile, mais de la
pornographie juvénile.
De la pornographie juvénile. Alors, 1 an à l'ombre, il ne faut pas 1 an, comme tu le sais, évidemment. Le système va le lâcher bien avant ça. Mais moi, je trouve qu'il est bien chanceux de s'en être tiré dans ces conditions-là. Puis ce qui me fascine tout le temps, c'est la mère tu sais, c'est comme il y a bien des gens qui sont irresponsables là-dedans, là. Tu sais, le bonhomme et la bonne femme aussi, qui laissent passer ça. Tu sais, une première fois, je dis pas, elle le sait pas, elle a pas pris les précautions ou elle est surprise quand elle apprend ça, mais tu sais, de permettre à ce gars-là de continuer d'être dans ta vie, alors qu'il a déjà fait ça une fois, sachant fort bien qu'il va le refaire. Parce que je peux pas penser, moi, qu'un gars qui a l'habitude de faire ça, puis qui a réussi à faire ça une fois dans sa vie, va arrêter de le faire. Il y a une attirance pour la petite fille, il profite de toutes les situations, il prend des images. C'est complètement ridicule. Mais là, l'histoire ne dit pas si le bonhomme a quitté la maison, il l'a quitté pour la prison. Mais j'espère qu'il ne reviendra pas chez elle. J'espère que les valises sont sur le perron. Là. Faut pas croire.
Ouais, ben, des fois, je me pose, tu sais, moi, je suis chanceux. Là, j'ai
incroyable.
J'ai eu deux gars, mais je me dis tout le temps, je me mets toujours à la place du père. Du père de cette jeune fille-là qui apprend que...
Le vrai père.
Apprend que son ex-conjointe avec qui il a eu un enfant a accepté le fait que, bon, il s'est fait prendre avec une photo d'elle dans son cellulaire, puis a accepté que cette jeune fille-là continue d'être dans cette maison-là avec ce prédateur-là qui était dans la maison. Je veux dire, j'imagine, je me mets juste dans la tête du père. C'est juste de pas se rendre chez eux avec un bat de baseball, ça doit être compliqué dans sa tête, là. D'essayer de se convaincre que c'est pas une bonne affaire.
Exactement. Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'il advient parce que, évidemment, là, on a une nouvelle. Il y a un jugement qui est sorti. On a une nouvelle, c'est dans l'actualité, tout le monde en parle. Parfait. Sauf que si on revient dans un an ou dans deux ans dans cette maison-là, il va se passer quoi? Qu'est-ce qui advient de la relation entre la mère et le gars une fois qu'il est en prison? Qu'est-ce qui advient du père? Qui va avoir la garde de l'enfant parce que c'est un enfant mineur? Alors, il y a quelqu'un qui a la garde de l'enfant. Comment ça se passe à partir de ce moment-là? Est-ce que le père intervient? Est-ce qu'il revendique des droits? Est-ce qu'il s'en fout? On ne sait pas, mais tu sais, ça serait intéressant de pouvoir suivre un petit peu ce qu'il advient de ces familles-là, complètement dysfonctionnelles, parce que moi, je n'ai pas besoin d'avoir plus que la preuve que ça. Je comprends que ce qui se passait dans cette maison-là, c'était complètement dysfonctionnel. Mais est-ce que ça demeure dysfonctionnel? Est-ce qu'il y a des séparations? Est-ce qu'il y a des changements importants dans la famille? Est-ce que la DPJ s'occupe de l'enfant au moins jusqu'à sa majorité? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va débarquer chez eux? On ne sait pas. Pas sûr, moi, qu'il y a une grosse prise en charge, puis je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de suivi suite au jugement, mais par rapport à lui, certainement comme délinquant, il va y avoir un suivi par le système judiciaire, par la police, mais par rapport à l'ensemble de la cellule familiale, j'ai bien des doutes sur le fait que ce soit totalement réglé.
Les juges peuvent pas être plus sévères quand le gars qui a commis ces actes-là essaie de minimiser un peu leur crime. Quand les gars disent ouais, ben, c'est à cause d'elle, la petite cochonne, là, elle me provoquait. Je veux dire, c'est visiblement le gars il a pas compris. Là. Moi, ça m'arrive à moi, je serais extrêmement honteux. Puis je pense que la sentence la plus sévère, c'est celle que je me donnerais à moi-même. Ce serait d'être pas capable de me pardonner. Puis après ça, tu as le processus judiciaire. Tu perds ta face devant toute ta famille, tous tes amis. Puis là, après ça, c'est ouais. Le juge qui te donne un an. Lui, dans sa tête, c'était vraiment qu'il était victime de quelque chose. Puis c'est la jeune victime de 16 ans qui faisait par exprès pour que lui, il la filme. Je veux dire, le juge n'aurait pas pu donner un an de plus, mettons, pour...
Ben oui, il aurait pu donner plus que ça, bien sûr. Mais en même temps, on est au Canada, on l'a souvent dit. On est au pays où les peines sont à peu près les moins sévères dans le monde. Tout le monde est gentil, tout le monde est récupérable, tout le monde peut être réadapté. C'est une erreur de parcours, etc. Faut pas que ce soit trop grave, faut y permettre de se réhabiliter. C'est ça les principes de justice puis de détermination de la peine au Canada. Alors même que dans la dépêche que j'ai lue aujourd'hui, je pense que c'est le Journal de Montréal qui en parlait, on dit que même la procureure de la Couronne, le DPCP semblait surprise. Elle a proposé un an, puis elle a eu un an. Elle n'a pas demandé plus, là. Elle semblait surprise d'avoir un an. Alors, tu sais, quand tu regardes la détermination de la peine, la durée des peines pour ce type de crime-là, c'est conforme à ce qu'on appelle la fourchette, là. Tu sais, il y a toujours un plus haut, puis un plus bas, puis un moyen. Puis ça semble être conforme à ce que les tribunaux supérieurs, la Cour d'appel, la Cour suprême, ont déterminé dans des cas semblables. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était pas assez sévère. Puis les crimes de nature sexuelle sur les mineurs, ça devrait être les peines les plus sévères. On devrait donner plus que ça. Puis je ne pense pas, comme tu le dis, il n'y a aucune circonstance atténuante. Ce gars-là ne regrette pas son crime. Il a confié à un sexologue que c'était à cause de la petite fille. Lui, il n'y a aucun repentir, aucun mea culpa véritable. Il pensait même s'en sortir sans peine, justement parce que peut-être qu'il pensait que le juge allait blâmer la petite fille puisqu'elle allait s'en sortir. je l'ai dit tantôt, c'est pas une excuse. Puis même à la limite, s'il y a des contributions de la part du mineur, d'une quelconque façon, ça permet pas au majeur de faire ce qu'il a fait. Alors, oui, c'est sûr que c'est pas assez, mais qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que dans ce cas-là, c'est un très bon résultat, compte tenu des standards de la justice canadienne qui sont bien évidemment loin de la sévérité.
Maître Bellemare, lorsque je suis arrivé en secondaire 1, mon professeur d'école nous avait fait la leçon sur les fameux Kleenex. Le professeur avait fait un test en disant « Vous appelez ça comment? » Puis là, toute la classe disait « On appelle ça un Kleenex. » Puis lui, il nous avait dit « Non. On appelle ça un papier mouchoir. » Mais l'entreprise, la mise en marché du Kleenex a tellement été fort partout en Amérique que le nom de l'entreprise, Kleenex, a remplacé le nom usuel qui est papier mouchoir. Et là, ce qu'on nous annonce, Maître Bellemare, c'est vous qui m'avez fait parvenir cette grosse nouvelle-là, c'est qu'il ne sera plus possible de se procurer des Kleenex au Canada.
Oui, c'est ça. Alors, on n'a pas de... c'est Kimberly-Clark là, qui est la compagnie américaine la plus importante dans le papier Q, papier Kleenex, tout ce qui s'appelle produits d'hygiène corporelle passe par Kimberly-Clark. Alors le Kleenex, effectivement, c'est devenu un Kleenex, alors qu'on sait bien que c'est la marque de commerce du papier mouchoir de Kimberly-Clark. Mais c'est comme quand on parle d'un frigidaire. T'sais, frigidaire, c'est pas... On parle d'un réfrigérateur, mais Frigidaire, c'était une marque d'une compagnie qui fabriquait des réfrigérateurs, comme les Skidoo, ben c'est une marque de motoneige de Bombardier, mais on a appris ça comme ça parce que ça a été les premiers. Kleenex a commencé à produire dans les années 20, je pense que c'est 1920. Ça fait à peu près 100 ans, un peu plus que 100 ans que ce produit-là existe. Mais là, ils ont des problèmes d'approvisionnement. Moi, quand j'ai vu la dépêche dans le...
Bon, je pense qu'on a perdu le contact avec Maître Bellemare, donc on va en profiter pour faire une pause. Je devais faire une pause anyway, puis on vous revient dans quelques secondes. Numéro de téléphone pour nous joindre, 418-971-1021, 418-971-1021. Puis je viens de voir des textos qui ont rentré dans les dernières secondes, entre autres pour la discussion que j'avais avec Maître Marc Bellemare, qui nous parlait de cet homme qui malheureusement est devenu quadriplégique avec un accident de VTT. Et l'auditeur m'a dit, Yann, pour ce qui est de la moto double usage, donc un semi-route, semi-trail, est-ce que on est assuré par la SAC? Faudrait vérifier avec la SAC. Puis je pense que quand vous regardez là, la facture, quand vous allez vous immatriculer, là, quand vous regardez la facture, il y a le détail là, de où va cet argent-là, puis à savoir si vous êtes assuré ou si vous ne l'êtes pas. Mais je vais poser la question à Maître Marc Bellemare tout de suite après la pause. Donc, continuez de nous envoyer vos messages au 418-971-1021, 418-971-1021, et on revient.
Marceau, le soir. Le jeudi 31 août, les Capitales de Québec seront en action au Stade Canac. On vous invite au match Boulevard 102-1 opposant les Capitales aux Boulders de New York. Procurez-vous vos billets pour ce match spécial à la billetterie des Capitales ou restez à l'écoute de Boulevard 102.1. À tout moment, vous pourriez remporter 4 billets pour la zone Blackstone où vous profiterez d'une ambiance des plus festives. Le 31 août à 19h05, c'est le match Boulevard aux Capitales de Québec. Soyez-y! LaVue.ca vous garde pour la rentrée. Obtenez l'examen de la vue gratuit et la monture gratuite, même sur les grandes marques. Une offre imbattable, promotion valide du 1er au 3 septembre à Beauport, Sainte-Foy et Fleur-de-Lys. Réservez maintenant LaVue.ca. Détails sur place. Jusqu'à concurrence de 250$ sur modèle sélectionné. Véronique Michaud, opticienne.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures de gros et gros big.
Hey gros, j'ai invité les chums pour la fête du travail.
Ça va être un gros barbecue.
Certain!
Hey, invite donc ton frère aussi.
Déjà fait, mais il va être à distance.
Comment ça?
Il célèbre la fête du télétravail.
Ah, brillant! Il va pouvoir être en short.
Profitez du gros week-end de la fête du travail chez Couche-Tard du 31 août au 4 septembre avec la caisse de 18 Budweiser Bud Light au Michelob et la caisse de 15 Corona au Stella Artois à 24,99 chacune. De plus, les chip lays sont à 3 pour 10$. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Il reste combien de dodo avant Noël?
Ben là, on vient juste de finir nos vacances d'été.
Un party de bureau réussi, ça se planifie.
Réservez tôt avec Concert Plus, un service événementiel professionnel à taux compétitif et adapté à votre budget depuis 40 ans. Les experts des parties de Noël, des réunions d'affaires et des congrès, ben c'est eux autres. Ah, puis aussi, ils vous organisent des soirées dansantes avec DJ, pas pire pantoute. Concert Plus, fournisseur officiel de succès. Détails au concertplus.com.
Papa?
Oui, ma chouette?
Dis-moi, c'est quoi ce chiffre-là?
OK. 43?
Non.
51?
Ben non.
60?
Non.
48? 56?
C'est 30, papa.
30 dans une zone scolaire. Même un enfant est capable de lire. Respectez la limite. Sur la route, on se conduit bien. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
Amoureux du poulet, préparez-vous. Le Festival du poulet est de retour à Lillet du 31 août au 3 septembre. Profitez d'une programmation gratuite pour tous les goûts. Au menu, fameux poulet au barbecue, derby de démolition, gala de lutte, show de boucan et soirée musicale avec les légendes du rock et hommage à Iron Maiden. Sans oublier une tonne d'activités familiales pour petits et grands. Pour des festivités gourmandes, c'est en Chaudière-Appalaches que ça se passe. On se donne rendez-vous au Festival du poulet à Saint-Damas. De Lillet.
Obtenez jusqu'à 30 $ de rabais sur les forfaits infinis avec le programme Privilège de Rogers. Pour plus d'informations et vérifier votre éligibilité, allez sur planetm.com/PPR. Planète Mobile, votre concessionnaire Rogers autorisé.
Les gros week-ends couche-tard présentent...
Les aventures de Gros et Gros Big.
Hey gros, j'ai invité les chums pour la fête du travail.
Yes, ça va être un gros barbecue.
Certain.
Hey, invite donc ton frère aussi.
Déjà fait, mais il va être à distance.
Comment ça?
Il célèbre la fête du télétravail.
Ah, brillant, il va pouvoir être en short.
Profitez du gros week-end de la fête du travail chez Couche-Tard du 31 août au 4 septembre avec le paquet de 4 Red Bull pour 6,99 $. Et à l'achat de 2 caisses de 12 Pepsi pour 13 $, obtenez la caisse de 12 Bubbly à 2,99 $. Couche-Tard, simple comme bonjour. 18 ans et plus, détails en magasin.
Facebook et Instagram veulent pas de nous autres. Mais vous autres, vous voulez rester informés et voir nos niaiseries. Pour tout ce qui se passe à Boulevard, l'app gratuite, TikTok, YouTube, X et le BLVD.fm. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est les lundis avec Maître Marc Bellemare. Comme à chaque lundi, plusieurs questions qui sont rentrées dans les dernières secondes. Si on a le temps, on va poser les questions à Maître Bellemare. Mais question pertinente dont je vous ai jasé juste avant la pause, puis je vais le répéter parce que M. Bellemare ne l'a probablement pas entendu. Advenant le cas où on a un véhicule qui est semi-route, semi-trail, donc une moto semi-route, semi-trail, puis qu'on est immatriculé à la SAAC, techniquement, on devrait être quand même assuré?
Oui, normalement, on devrait l'être, mais la SAAC n'assure pas les dommages qui surviennent suite à un accident de VTT, de skidoo, de motocross notamment, à moins qu'il y ait une collision avec un véhicule automobile ou une moto régulière. Là. C'est okay. Comme on l'entend, une vraie motocyclette ou un véhicule ou un pick-up. Là. Okay. Mais... ça, c'est assuré. Mais si c'est, par exemple, deux quatre-roues qui se frappent ou un skidoo qui frappe un quatre-roues, il n'y a pas d'assurance à ce moment-là, en ce sens que vous ne serez pas indemnisé pour votre remplacement de revenus puis vos séquelles suite à ce type d'accident-là. Il faut qu'il y ait absolument un véhicule qui fasse partie de l'accident.
OK. Mais une moto semi-route, semi-trail, comme elle est immatriculée pour être sur la route, techniquement, ces gens-là sont assurés?
Oui, techniquement, ils sont assurés, effectivement. Mais tu sais, la ligne est mince. Il y a tellement de choses qui se promènent sur nos routes aujourd'hui que souvent, on ne sait pas. Il y a une immatriculation qui est exigée de la part de la SAAC. Et c'est ça qui amène énormément de confusion, c'est que les gens pensent qu'ils sont assurés parce qu'ils ont une plaque. Et cette plaque-là, pour eux, correspond à une espèce de garantie d'assurance, alors qu'il n'en est rien, on paye pour rien. La SAAC encaisse le chèque, il ne donne rien en retour. Et c'est ça qui est choquant, parce qu'on envoie un mauvais message, puis les gens qui sont blessés gravement sur un VTT, par exemple, croyant à tort être protégés, ne s'assurent pas au privé. Et quand l'accident survient, ils se retrouvent sur le bien-être social, et ce, pour longtemps. Et c'est ça qui est le drame.
Oui. Puis, tu sais, vous le dites, là, on se retrouve avec plusieurs véhicules sur nos routes, puis des fois, des véhicules qui ont pas d'affaires là, mais en même temps, tu sais, moi, c'est que c'est le genre de choses qui m'attirent. Je sais pas si vous les avez vus, là. Moi, je les vois souvent passer sur Pierre Bertrand. Je les vois aussi passer dans Côte-Saint-Sacrement. C'est comme des unicycles, là, mais des unicycles électriques. Les gars, ils ont des casques sur la tête, puis ça doit rouler à 50-70 km/h. Ça, je veux dire, on se plante avec ça. Il n'y a pas de pardon. Là.
Ben, c'est ça. Mais si, par exemple, tu veux éviter un véhicule automobile ou qu'il y a un véhicule qui passe proche de te frapper, même s'il n'y a pas de collision comme telle, si un véhicule
classique, là, une auto là, qui est impliquée dans l'accident ou qui a provoqué de près ou de loin l'accident, ne serait-ce qu'en partie, à ce moment-là, la SAC va t'indemniser même si toi, tu n'es pas au volant d'un véhicule. Mais si c'est un accident qui survient bêtement parce que tu as pogné un nid de poule, parce que tu as pogné une chaîne de trottoir, parce que l'immatriculation n'est pas bonne, ben tu vas être comme sur un vélo et tu ne seras pas indemnisé pour tes dommages. Alors, informez-vous. Là, si vous avez un véhicule qui n'est pas tout à fait normal, un peu particulier, informez-vous à savoir est-ce que si j'ai un accident avec ça sans automobile, est-ce que je vais être indemnisé? Parce que il y a des. Les quatre roues, on le sait, là, qui sont pas couverts, puis les skidoos aussi, ben, il y a toutes sortes de bébites sur nos chemins, là, qui sont pas tout à fait connus et pas tout à fait enregistrés, pas tout à fait réguliers. Et peut-être que dans ce cas-là, malgré votre immatriculation en cas d'accident, vous ne serez pas couvert, vous ne serez pas payé.
Il y a des vélos, je promène souvent mon chien là, sur la piste cyclable à Val-Bélair, puis je m'arrange pour être sur le côté, bien entendu, puis pas nuire, mais je vois des vélos passer. Des fois, c'est des vélos électriques, les gens pédalent pas, puis ça roule à 50-70 km/h, mais de belle mort. Ça commence à, commence à avoir de la complication, là, ces pistes cyclables.
Oui, c'est ça, avec les trottinettes, les effectivement, c'est sûr que les trottinettes sont pas couvertes. Même s'ils sont mus par un pouvoir électrique ou par un moteur, ça suffit pas. Faut que ce soit un véhicule qui sachez là qu'une automobile, un pick-up, un camion, un F-150, une motocyclette, comme on l'entend généralement, sont protégés en cas d'accident, même s'il n'y a pas de collision, vous allez être indemnisé. Mais si vous avez un véhicule qui sort un peu des normes, informez-vous parce que d'après moi, ça vous prend une assurance privée. Si vous voulez être couvert en cas d'accident, parce que vous risquez de vous retrouver le bac à l'eau si jamais vous êtes blessé dans un accident bête qui n'implique que votre véhicule.
Maître Bellemare, avez-vous été agréablement surpris du plan d'action en sécurité routière qui vient d'être mis en place là, pour 2023-2028?
Je pense que c'est des mesures qui s'imposent, mais ce qui me tanne, puis ce sur quoi les médias ne se sont pas attardés, c'est le fait qu'il n'y a rien de ça qui est en vigueur aujourd'hui. Tu sais? On a annoncé ça à quelques jours de la rentrée scolaire. Les gens pensent que c'est en vigueur. Ça ne l'est pas. Ça prend un projet de loi pour les amendes. Ça prend des changements sur les routes pour reconfigurer certains carrefours ou certaines routes qui sont dangereuses. Mais on parle d'un plan qui va s'échelonner jusqu'en 2028. Ça fait 5 ans. Et moi, ce qui me choque, là, c'est que la ministre nous arrive avec ça à dernière minute, 2 jours avant le début de l'année scolaire, alors qu'on sait très bien que la sécurité au pourtour des écoles n'est pas assurée adéquatement au Québec, et ça depuis longtemps. Moi, je me souviens, au mois de décembre, ça fait 8 mois, il y a une petite fille, une petite Ukrainienne de 7 ans qui a été tuée à Montréal. Je ne sais pas si tu te souviens.
Oui.
Ça a été la grosse affaire. On a vu ça dans les nouvelles pendant une semaine. Le gars s'en venait avec son truck, son pick-up. Je pense qu'il était à Il roulait à, je sais pas, à 80, une zone de 30 ou 40. En tout cas, c'était vraiment pitoyable. Il a même été accusé depuis ce temps-là. Mais c'est en décembre. Alors, comment ça se fait que la ministre n'est pas capable de nous arriver avec un plan? Comment ça se fait qu'elle n'a pas présenté un projet de loi au printemps dernier? Elle aurait pu le faire au mois de mars, au mois d'avril, à l'ouverture de la session. Un projet de loi pour augmenter les amendes, pour prévoir des photos radars, pour des mesures concrètes. Mais non, c'est pas ça, ça prend un projet de loi. Je te dis, là, il y a rien de ça qui va être en vigueur avant 2024. Et moi, c'est ça qui me choque, c'est qu'on arrive avec une annonce politique, mais on est toujours en retard. Même chose pour Drainville avec ses cellulaires, là. Ils disent qu'il n'y aura plus de cellulaires dans les écoles, mais ça prend une résolution du Conseil des ministres. Comment ça se fait qu'il n'est pas allé chercher ça au mois de mai, lui-là, là? Il attend au mois d'août avant d'annoncer ça. Ils sont toujours en retard. C'est ça qui me tanne, les gouvernements. C'est toujours en retard. Il n'y a jamais personne qui est capable d'allumer au bon moment pour se dire, hey, on a 4 mois, 6 mois pour faire ça, pour que ça soit en vigueur au bon moment. Alors, si on avait eu des mesures de sécurité additionnelles pour le retour à l'école, au moment que la ministre annonce c'est en vigueur dès ce matin, je vous le dis, là, si vous roulez trop vite au pourtour d'une école, les amendes, ça va être 5 fois plus cher. Ça aurait eu de l'effet, mais là, ça prend un projet de loi. Ouais. Moi, c'est ça qui me choque, c'est lenteur continuelle. Et ils sont toujours en arrière du trafic. C'est ça qui me tente.
30 km/h maximum en zone scolaire, c'est une bonne chose. Prioriser les projets visant à améliorer la sécurité des zones et les corridors scolaires, c'est une bonne chose aussi. On veut injecter 68 millions supplémentaires sur 5 ans pour financer les aménagements qui visent à améliorer la sécurité des transports actifs dans les zones et les corridors scolaires. Introduire des normes favorables au déplacement sécuritaire des piétons, particulièrement des enfants, des aînés et des personnes handicapées. On veut aussi, dans des endroits où il y a des chantiers, là, on veut mettre une présence policière accrue. C'est pas une mauvaise chose, ça, compte tenu du fait que, malgré le fait qu'on n'en entend pas parler souvent, là, il y a énormément d'accidents sur les chantiers de construction, sur nos routes. Parfois, c'est le flagman qui se fait carrément piler dessus parce que la personne veut sauver 5 minutes dans sa vie. C'est assez particulier, mais le fait de mettre des policiers dans ces endroits-là, ça va peut-être refroidir les ardeurs de ceux qui veulent aller plus vite.
Ah oui, tout ça, c'est des bonnes mesures. Je dis pas le contraire. Ce que je te dis, c'est que c'est comme un contrat d'assurance. Il y a toujours des petites clauses écrites en minuscules dans le bas du communiqué de presse. Et le communiqué de presse dit on va mettre ci, on va mettre ça, on va augmenter les amendes. Alors, les gens pensent que c'est immédiat, mais c'est toutes des affaires qui vont arriver dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Moi, je pense que si la ministre avait dit, après la défaite de la petite ukrainienne, là, tout le monde a compris qu'autour des écoles au Québec, on a un problème. Elle aurait pu annoncer ça au mois de février. On aurait pu faire des travaux au mois de mars, avril, pendant tout l'été, pour s'assurer qu'au début de l'année scolaire, nos enfants soient mieux protégés. Mais c'est pas ça. L'annonce se fait, puis après ça, on va dépenser pendant 5 ans pour aménager. Je suis pas contre, là. Je sais juste qu'il va y en avoir d'autres blessés, Yann. Il va y avoir d'autres morts, je te jure, là. C'est certain qu'il va y en avoir d'autres. Même cette année, on va en avoir des accidents dans des zones scolaires. Pourquoi? Parce que les mesures sont pas encore en place.
Puis, tu sais, des radars photos là, dans les quartiers résidentiels ou aux abords des écoles, il me semble qu'il n'y en a pas assez, tu sais. Je reprends souvent le même exemple parce que c'est un exemple qui me frappe à chaque hiver. Tu sais, mettre un radar photo sur Champlain à minuit, un lundi soir, là, on le sait très bien que c'est pour ramasser de l'argent puis que c'est pas pour sauver des vies. Mais je pense que ce radar photo-là serait pas mal mieux dans un quartier résidentiel le samedi de jour puis dimanche jour, tu sais, pour convaincre absolument. Les gens que s'ils roulent à des vitesses épouvantables, ben écoute, ils vont payer le prix. Ils n'auront pas le choix. Là. Il va falloir les restreindre à un moment donné, mais les mettre dans des endroits où ça vaut la peine et non juste pour prendre l'argent dans les poches du monde.
Ouais, ben les gouvernements vont toujours se faire dire que c'est pour de l'argent qu'ils font ça. Alors que c'est sûr que c'est pas bon. Comme tu dis, dans certains cas, on peut se questionner des endroits où il n'y a pas vraiment de danger en pleine nuit, puis ça flash. Mais il reste que là, ça respecte la limite ou ça respecte pas. T'sais, c'est toujours un peu tannant de se faire flasher puis d'être obligé de payer quelque chose. Mais en même temps, on comprend que les photoradars sont des mesures efficaces. En sécurité routière, depuis 50 ans, les photoradars sont les mesures les plus efficaces. C'est prouvé. Et partout dans le monde, ça existe. Ça coûte pas trop cher. On n'a pas nécessairement besoin de quelqu'un pour actionner le photoradar comme on doit le faire avec le séchoir à cheveux, là,
ouais.
Avec tout ce que ça implique comme possibilité de contestation. Alors, ça donne des sous, mais en même temps, ça amène un ralentissement. Tout le monde qui prend le pont de Québec, là, le pont Pierre-Laporte, là, puis qui arrive à hauteur de Saint-Romuald, sait qu'il y a 2 radars qui sont là, ça fait des années. Alors, tout le monde ralentit, alors ça a de l'effet, ça donne des résultats. Ouais. Faisons-le dans des zones scolaires, pourquoi pas? Si c'est 30 kilomètres, on va le mettre partout, puis les gens vont comprendre qu'il y a des écoles autour, puis qu'il faut ralentir.
Mais pour passer régulièrement à cet endroit-là, là, dans la hauteur de Charny, où il y a le fameux photoradar, c'est vraiment, ça fait un effet élastique. Là. C'est-à-dire que les gens roulent à 100, 120, quand ils arrivent où le radar descend à 90, puis après ça, ils réaccélèrent. Des fois, je me demande si c'est pas plus dangereux. Puis bien souvent, on dit, on met des photoradars dans des endroits où il est arrivé des accidents. Bien, à cet endroit-là, le seul accident qui est arrivé, c'est une policière qui essayait de suivre un collègue à Lévis, une policière de Lévis, essayait de suivre un collègue, puis les deux répondaient à un call. C'était quelqu'un qui s'était planté en bicycle à pédale, puis les deux policiers roulaient à une vitesse peut-être un peu trop rapide pour l'urgence qui était dans la place. Puis malheureusement, la policière a perdu la maîtrise de son véhicule puis elle est rentrée dans le viaduc. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dit un photoradar, ça ferait bien à cet endroit-là, mais il n'y avait pas nécessairement d'accident. Puis quand ils ont décidé de mettre le photoradar le plus payant au Québec directement sur Dufresne-Montmorency, c'est en raison du fait que c'est un Soulon qui a décidé qu'il prenait son char, qu'il roulait à une vitesse beaucoup trop rapide, puis qu'il est allé décimer une famille sens contraire sur l'autoroute. C'est... Mais à cet endroit-là, il n'y a pas tant d'accidents que ça. En fait, il n'y en avait pas. Là. C'est juste que les policiers ont dit, ben ça a fait jaser, on va mettre un photoradar à cet endroit-là.
On va dire qu'on s'en occupe, mais tu as raison sur le fait que le ralentissement, quelqu'un qui va rouler pendant 3 heures, il y a un photoradar, il va ralentir à l'endroit, en tout cas 1 kilomètre peut-être avant, 1 kilomètre après. Tout le monde ralentit, donc le trafic en général est ralenti. Mais là, on parle de sécurité autour des écoles, Yann. Si le monde ralentit à 1 kilomètre avant l'école, puis qu'ils reprennent leur vitesse à 1 kilomètre après, bien, au moins on aura protégé nos enfants. Parce qu'il faut comprendre que les photoradars sont annoncés par la ministre pour diminuer le nombre d'accidents dans les zones scolaires. Puis moi, là, je veux bien que le monde ralentisse dans les zones scolaires. On a des petits bonhommes là, de 6-7 ans qui se promènent avec des sacs d'école, là, qui sont tout contents d'aller voir leurs amis, là. Puis ils passent un troc à côté, là, à 70 km, là, c'est inacceptable. Peut-être que c'est juste un ralentissement ponctuel en fonction des radars qui sont là, mais au moins on aura gagné ça.
Puis bien souvent, Maître Bellemare, les gens qui vont vite d'un quartier résidentiel, c'est souvent nos voisins. Hein? C'est des gens qui sont habitués de fréquenter ce quartier-là, puis qui se sentent en sécurité, puis qui roulent beaucoup trop vite. Là.
Bon, oui, les parents, ça m'est déjà arrivé d'en parler à un parent, moi, dans une cour d'école. Dans Sillery, là, il y avait un parent dont je reconnaissais le véhicule, puis j'avais dit, je suis allé le voir, puis j'avais dit, tu prends une chambre, tu passes vite devant chez nous le matin, là. C'est moyen de ralentir un peu. C'est quelqu'un que je connaissais très bien. Tu sais, les gens s'en vont travailler, vont porter les enfants à l'école. Alors, ils sont pressés, ils sont en retard au travail. Ils vont vite. Puis qui fréquente les écoles et qui se promène autour des écoles, c'est bien souvent précisément les parents. Mais que ce soit des parents ou pas, l'important, c'est de les arrêter ou de les modérer. Là. C'est ça, l'objectif.
Maître Bellemare, pour des dossiers de SAAC, d'IVAC, de CNESST, bellemareavocat.ca?
Tout à fait. 24 heures sur 24.
Ah oui, 24 heures sur 24.
Oui, on peut laisser un message, en tout cas.
Bien, au prix que vous chargez, là.
Ah, ben c'est ça.
Vous devez être disponible en tout temps, 7 jours sur 7.
On rejoint les gens, c'est pas long. C'est très rare qu'on ne tourne pas un appel dans les 24 heures.
On se rejase lundi.
C'est beau, salut, bonne semaine. Ouais.
Maître Marc Bellemare qui était avec nous comme à chaque lundi, puis il sera présent lundi prochain. C'est à ne pas manquer, les amis. On parle de plusieurs sujets. Des fois, on parle d'actualité, on parle de politique, mais on parle aussi de sécurité routière, des histoires de CNSST, de SAAC, d'IVAC, on en parle bien en masse. Actuellement, sur Québec, encore très confortable, c'est 22 degrés. Quelques nuages pour ce soir, mais pas de probabilité d'averse, minimum de 13. Pour ce qui est de demain mardi, alternance de soleil et nuages avec 40% de probabilité d'averse en après-midi, maximum de 25. Facteur humidex demain, température ressentie possible de 30 degrés, donc peut-être un peu plus chaud que dans les derniers jours. Pour ce qui est de mercredi, ce serait le retour de la pluie, maximum de 19. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ce serait plein soleil, si on en croit les gens d'Environnement Canada. Mais ça, on va le croire quand on va le voir. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite de passer une belle soirée. Mon chum Max en vient dans les prochaines secondes. Puis on se rejase demain, 11h, pour ce qui est de Marceau le midi, avec Pascal Cévé. Salut!
Marceau le soir.
La toune The Dirt and Buried In. Ça dit quelque chose? C'est une des petites nouvelles à Boulevard. Écoute ça. Ben, ça donne que, pour une petite nouvelle,
c'est une grande chanson d'un méchant bon band qui sera de passage à Québec le 12 septembre prochain.
Avatar, à l'Impérial Bell, dans le cadre du Chimp Mosh Pit Tour. Manque pas ça. Achète tes billets dès maintenant à imperialbell.com.
Avatar à l'Impérial Bell le 12 septembre.
Une présentation de Boulevard 102.1 et Bleu Feu.
Hey, savais-tu que t'as pas besoin de parler à personne pour devenir membre fils? Je me suis fait livrer ma carte SIM chez moi puis j'ai fait l'installation de mon Internet tout seul. C'est facile, hein? Passer à fils? Allô? Allô?
Le Collège François de Laval, c'est LE milieu de vie pour s'épanouir. Visitez-nous lors de nos journées portes ouvertes les 16 septembre et 17 septembre prochains. Au CFDL, vos jeunes peuvent choisir parmi une foule d'options stimulantes dès le premier cycle du secondaire afin de développer leur passion. Nouvelle option Athlète Plus, sciences et robotique, arts, en plus d'un programme enrichi en anglais. Réservez votre place aux portes ouvertes du 16 ou du 17 septembre au collègefdl.ca. Au Collège François de Laval, deviens qui tu veux, rien de moins.
Vous en avez jamais assez de vos animateurs préférés. Réécoutez les meilleurs segments des shows sur le blvd.fm et sur l'application.
Salut, ici VL Photographie. 1000$ de services photo. Ça vous tente? Inscrivez-vous sur mes réseaux sociaux pour gagner une séance photo des plus dynamiques, fashion et créatives avec moi. À l'écoute de vos idées, je vous rappelle qu'en photo, tout est possible. On se voit bientôt.
VL Photographie sur Facebook et Instagram.
Si je te dis bière de micro et pizza, ça te donne le goût, hein? Du mardi au dimanche, ça se passe à l'Emporium. Avec une variété de bières brassées sur place et des pizzas cuites au four à bière rotative, l'Emporium, c'est la place pour une soirée en chum. Réserve sur microbrasserieemporium.com.
Pourquoi te contenter de mini-cèdres rabougris qui prennent 10 ans à pousser quand tu peux avoir bien mieux? Choisis Beau Cèdre, de beaux grands cèdres fournis à souhait d'une incroyable qualité garantie 5. Et Beau Cèdre installe tout pendant que toi, ben, tu relaxes sur le patio. Beau Cèdre en un mot.com.
Check it out! Boulevard 102, c'est votre radio rock. Merci d'être là.
L'ADN du rock.
On est de plus en plus nombreux à avoir du fun.
Ben, parce que c'est le meilleur au monde.
J'adore 102!
Il n'y a rien de mieux que 102-1
et
son équipe.
102-1.
Parce que c'est la meilleure radio au monde!
Boulevard 102. Bienvenue chez vous. C'est l'heure. L'heure que vos haut-parleurs redoutent. Voici Max Larouche, le volume au max.
Oh, ça c'est du rock.
Excellent lundi soir à Boulevard 102.1. Max Larouche passe au-dessus d'une heure avec vous pour vous offrir la meilleure musique en ville. Ben oui, encore moi, après la première partie, après Rage Against le matin, l'heure CV, Maxo le midi en remplacement de Tom Gauthier et ma petite chronique sportive dans Gravel dans le retour, ben on se retrouve encore pour s'offrir de la bonne news. Toujours un plaisir, on se fait ça toute la semaine du lundi au jeudi en fait, parce que c'est Marcotte qui est là le vendredi pour le bonhomme 7h, mais de 19h à peu près 20h, 20h et quart, ça m'arrive de dépasser, je suis pas bien discipliné quand il s'agit de vous jouer de la musique, et j'en ai de la très bonne pour vous, fait qu'on se privera pas certains ce soir. Coldplay, Samen, Cage the Elephant, Portugal the Man, les Kings of Leon aussi, les Foo Fighters avec Love Dies Young, et tout de suite, Blink-182 avec une des meilleures du band qui nous proposera dans les prochaines semaines, pour ne pas dire les prochains jours, un nouvel album. Mais là, c'est un classique. C'est Adam's Song à Boulevard 102.1. Bienvenue dans le volume au max.
It's a losing game.